De Stephen, le relâchement dans la recherche conduira à l'échec en prenant garde de s'installer dans une formalité sans puissance. Prendre garde que l'esprit de ce monde n'absorbe pas leur esprit, tenir parole, et que leur oui soit toujours oui, ne pas trop se fier à l'éducation, etc. S'aimer les uns les autres. Écrit par celui qui travaille pour la prospérité de Sion, Stephen Crisp. Très chers amis, frères et sœurs, la salutation de mon tendre amour, dans les effusions de la vie en notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul chef, s'étend à vous tous par la voie spirituelle de la communication, dans laquelle vous êtes rendus participants par le Saint-Esprit, par l'élan de cet amour et de cette vie que nous avons reçue du Père de la vie. Je suis poussé à vous visiter tous par une épître de tendre avis et de conseils, et tout particulièrement vous, mes chers amis, parmi lesquels j'ai voyagé dans ce pays et dans d'autres nations. Oh ! Le souvenir de la gloire et de la puissance de Dieu qui sont apparus parmi nous jadis affecte beaucoup mon âme en ce temps, sachant que le Seigneur est le même pour ceux qui tiennent ferme les choses qu'ils ont entendues et apprises dès le commencement. Mon esprit est à l'œuvre parmi vous, me souciant et priant pour votre stabilité et votre persévérance dans la vérité. Quoique mon âme extérieure soit si affaiblie que je ne puisse plus voyager autant qu'auparavant, à tel point que je sais que beaucoup d'entre vous, parmi lesquels j'ai voyagé dans l'évangile de notre Seigneur Jésus, ne verront plus mon visage. Pourtant mon travail en esprit ne diminue pas, ni mon amour pour vous, peuple du Seigneur, mais mes cris montent jour et nuit vers le Seigneur, afin que vous soyez conservés irréprochables. Car c'est à cette fin qu'il met toute sa subtilité à l'œuvre, et qu'il inspire beaucoup de ceux qu'il a déjà pris dans ses pièges, et les place comme des pièges pour en attraper davantage parmi vous, afin que, par leur exemple, vous qui tenez encore ferme puissiez aussi tomber de votre constance et devenir sa proie. C'est pourquoi, mes chers amis, saignez les reins de votre esprit et revêtez l'armure complète de la lumière, alors vous verrez tout autour de vous, et quelle que soit la manière dont l'ennemi vienne vous assaillir, vous serez préparés à lui résister. Car votre suffisance est dans la lumière et dans la vérité, dont le diable est exclu, et si votre œil demeure simple à l'égard de la vérité dans vos entrailles, toute la tromperie du diable et tous ses instruments ne pourront vous séduire, mais il vous sera donné un sens certain de ses opérations mystérieuses. Mes chers amis, je ne voudrais pas que vous oubliez qu'il y a bien des moyens de vous affaiblir et de vous obscurcir, et qu'il faut tous les surveiller. Marchez donc avec circonspection, gardant l'œil dans votre tête, attendant de sentir votre force se renouveler chaque jour. Car soyez-en assurés, vos épreuves et vos tentations se renouvelleront, et si vous êtes privé du pain quotidien céleste, il y aura un affaiblissement quotidien qui se manifestera par le fait que vous serez vaincu par des choses contre lesquelles vous aviez autrefois la force de tenir, ce qui est un grand chagrin à voir chez beaucoup. Je viens maintenant vous avertir de quelque chose qui, depuis quelque temps, pèse sur moi et que je dois vous envoyer. Ce que je recommande fidèlement aux purs témoins de Dieu dans toutes les consciences, non comme si je jugeais que ce soit, mais je dois vous dire ceci, il en est un qui juge et qui donnera une réponse en chacun qui l'écoute, par laquelle il pourra connaître jusqu'où ces choses ont prévalu sur lui. Et celui qui juge délivrera aussi par le jugement ceux qui sont pris dans les pièges de Satan, s'ils écoutent et se soumettent à ses directs. Premièrement, prenez garde, mes chers amis, de tenir la vérité dans une simple formalité, vous satisfaisant d'avoir depuis longtemps reconnu la voie de la vérité, et les assemblées du peuple du Seigneur, et d'avoir paru, en toutes choses extérieures, comme eux, et d'avoir ainsi obtenu la réputation d'en être. Astérisque sous ces considérations, vous vous installez à l'aise quant à l'homme intérieur, étranger aux travaux intérieurs, soit pour vous-même, soit pour autrui, indifférent à ce que la noble plante croisse, soit en vous-même, soit en d'autres. Oh, mes amis, c'est là un état dangereux, oui, plus dangereux que ma langue ou ma plume ne saurait l'exprimer. Toutefois, afin de me dégager et d'avertir de telles personnes, Dieu me donnera la parole. Astérisque, cela décrit une forme ou une coquille de l'ensemble, qui paraît la même à l'extérieur, mais qui est vide à l'intérieur. Malheureusement, comme pour tous les avertissements des premiers Quakers à leurs membres plus jeunes, cette lettre d'avertissement fut ignorée. Aujourd'hui, les nombreux courants Quakers sont une coquille vide de l'ancienne gloire de la véritable Église de Christ. Considérez donc comment votre pauvre âme est trompée dans cette condition. Premièrement, vous êtes privé de cette jouissance quotidienne dont d'autres jouissent en attendant le Seigneur. D'autres sentent sa présence rafraîchissante, qui soit les remplit de joie et de consolation, soit ouvre leur intelligence dans la lumière à une connaissance certaine de, et à un témoignage contre, telles choses qui demeurent encore en travers du chemin et empêchent la joie de son salut de les atteindre. Mais vous, qui êtes assis dans une sèche formalité sans travail intérieur sur votre esprit, vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, mais vous avancez dans les ténèbres, ne sachant où vous allez. Ainsi, avec le temps, puisque vous êtes si étrangers à l'opération puissante de la vérité en vous-même, cela en vient jusqu'à vous faire mettre en question si d'autres témoignent réellement d'une telle opération puissante. Car tout ce qui n'est pas expérimenté est sujet au doute, Comme celui qui n'a jamais vu ne sait pas ce qu'est voir, et celui qui n'a jamais senti une odeur ne sait pas ce qu'est sentir. Ainsi celui qui, par une longue persévérance dans cette manière formelle d'aller aux réunions, demeure toujours sans connaissance de la puissance, finira par être aisément amené à mettre en doute s'il existe réellement une telle puissance ou non. Dans cet état, la puissance des ténèbres agira insensiblement, l'emportera sur votre esprit, et vous rendra propre à son dessein. Elle insinuera dans votre pensée une secrète liberté et un relâchement, même à l'égard de votre sèche formalité elle-même, peu à peu. De cette façon, la puissance des ténèbres vous prépare à un temps d'épreuve vive et aiguë qui viendra vous éprouver, soit pour obtenir quelque chose, soit pour vous séparer de quelque chose, chose que l'on peut obtenir ou quitter, si vous tournez le dos à la vérité. Quand ce temps d'épreuve vous atteint, alors la force et l'avantage que l'ennemi a acquis sur vous durant le temps de votre profession tiède et relâchée deviennent manifestes. Vous êtes alors dans de grandes difficultés pendant un certain temps. Si la tentation est d'avoir une femme ou un mari, ou une part, un héritage, ou de gagner un procès, ou de recouvrer une dette, ou d'autres choses semblables, et que ces choses ne puissent être obtenues sans laisser tomber le témoignage de votre profession, en jurant, ou en allant chez un prêtre, ou par quelque autre chose entièrement contraire à votre profession. Quel combat, dans votre âme, pour obtenir la chose que vous désirez, lorsque vous la pesez contre votre désir d'être encore considéré comme un ami, répugnant à être publiquement rangé parmi les rétrogrades et les apostats. Il en va de même si la tentation et l'épreuve concernent le fait d'abandonner quelque chose pour l'amour de votre profession, comme de vous séparer de quelque chose que vous aimez, votre femme et vos enfants, votre liberté, votre argent, votre bétail, votre maison et vos terres, ou toute autre chose qui vous soit chère. Oh, comme le moi œuvre à se sauver, et comme il répugne à abandonner le nom et la réputation d'ami de la vérité, tout en répugnant à se séparer de l'une de ces choses pour l'amour de la vérité, ne ressentant ni le centuple en ce temps-ci dont Christ a parlé, ni la vie éternelle non plus. Voici un jour de grande difficulté et de détresse, qui est venu et qui vient sur beaucoup de ces croyants négligés attachés à une forme. Ils ont besoin de l'aide de la puissance divine de Dieu pour les soutenir et leur donner la victoire, mais hélas, ils en sont éloignés. Ainsi, la forme ne les soutiendra pas à l'heure de cette grande épreuve, mais les raisonnements de la chair et du sang sont devenus forts faute de vivre dans la croix quotidienne, et cette nature crie haut dans les oreilles de votre âme, celle que vous avez choyée et laissée vivre. Si vous considérez la vérité et pesez son témoignage contre votre propre volonté et votre désir, vous voyez alors aisément ce qui a le plus de poids en vous. Car un faux poids, une fausse balance et un faux jugement se seront établis durant le temps de votre profession négligente, et le vieux trompeur alors intervient et vous dit qu'il n'y a pas de mal en cela, ou du moins que c'est un mal moindre que l'alternative, de sorte qu'entre deux mots, la sagesse serait de choisir le moindre. Ce genre de rationalisation remplit votre esprit jusqu'à ce qu'enfin votre volonté égoïste, devenue forte, et votre intelligence obscurcie, vous choisissiez de mettre votre âme en péril et de vous séparer de votre témoignage sec et flétri, que vous avez longtemps porté sans vie, et d'embrasser le prix qu'on vous en offre, comme Ésaü pour un potage et Judas pour de l'argent l'ont fait. Ainsi vous vendez la vérité que vous suiviez autrefois, et la livrez autant que vous la possédez entre les mains de son ennemi, pour qu'elle soit tournée en dérision, couverte d'opprobre et foulée aux pieds. Voilà le fruit et l'effet d'une longue négligence et d'un long manquement, dont vous croyiez jadis qu'il n'arriverait jamais. Lorsque les serviteurs du Seigneur ont déclaré quel triste effet une telle négligence produirait avec le temps, vous avez été enclins à vous bénir vous-même et à croire que vous n'iriez jamais si loin que de jeter publiquement le déshonneur sur la voie que vous aviez déclaré être la vôtre. Mais hélas, vous ne saviez pas que l'ennemi de votre âme, pendant tout ce temps, vous préparait au jour de votre plus grande épreuve et, pour ainsi dire, vous désarmait en vue du jour du combat, afin de vous vaincre plus aisément. Or vous vous voyez maintenant tomber, alors que d'autres éprouvés par les mêmes tentations sont demeurés debout et ont vécu dans leur témoignage. Vous auriez pu aussi demeurer debout si vous aviez attendu Dieu comme vous auriez dû le faire, avec diligence pour le renouvellement de votre force. Mais maintenant, hélas, homme ou femme misérable, que ferez-vous? Votre manteau est maintenant arraché, votre profession en feuille de figuier est déchirée, et vous n'avez plus que deux alternatives, et encore, heureux si elles sont au nombre de deux, détournez votre esprit de l'objet de votre délice pour le tourner vers la vérité pour laquelle vous l'avez vendu. Par la repentance et à travers le jugement, attendre de voir si Dieu vous fera miséricorde ou non. Passez vos jours dans la tristesse et le deuil, et enfin maintenant, vous livrez à cette œuvre que vous avez tant méprisée auparavant, ou bien prendre l'autre voie, c'est-à-dire continuer dans votre rébellion contre la lumière de Jésus-Christ et ajouter péché sur péché, jusqu'à ce que l'habitude du péché enlève le sens du jugement. Et ainsi vous pourrez parvenir à une aisance charnelle et cesser de vous soucier de votre avenir. Mais comme la bête qui périt, vous mettez votre cœur sur les choses de cette vie pour un peu de temps, puis vient la fin. Et vous qui fûtes jadis appelés par Dieu un héritage dans sa lumière, vous devez maintenant avoir votre part dans les ténèbres les plus profondes, et vous qui fûtes appelés jadis à être un vase d'honneur, vous êtes devenu un vase de colère, propre à la destruction. Ô, mon âme déplore l'état de tels hommes, et je serais heureux si quelqu'un de ces professeurs négligés de la vérité pouvait être réveillé avant qu'il ne soit trop tard. Mais quoi qu'il en soit, je suis jusqu'ici dégagé de leur sang, et s'ils périssent, la faute sera la leur, deuxièmement. Une seconde chose qui me pèse et au sujet de laquelle je veux vous avertir tous, mes chers amis, c'est de veiller contre l'esprit de ce monde, de peur qu'il ne boive trop votre esprit dans une poursuite avide et cupide des choses de ce monde, ce qui arrive à plusieurs de diverses manières, à leur grand tort et dommage, et le piège est profond et caché sous un subtil voile. Premièrement, c'est le devoir de tout homme de prendre soin de sa famille, d'être diligent dans la vocation où Dieu l'a placé, et de tirer parti des occasions que Dieu veut bien mettre entre ses mains. Cependant, l'ennemi subtil œuvre ici pour rendre ce souci immodéré, pour transformer la diligence en servitude. L'ennemi œuvre aussi à changer le simple fait de bien profiter des occasions que Dieu lui donne en une recherche et une quête de nouvelles occasions, parfois par des voies détournées et parfois au préjudice de son prochain. Ces poursuites excessives sont encouragées afin de satisfaire un désir cupide d'amasser des trésors terrestres, et par une poursuite assidue, le désir croît régulièrement, de sorte qu'avec le temps leur accroissement ou leur diminution devient la source de sa joie et de sa tristesse. Il devient alors misérable, parce que la joie et la tristesse sont les facultés les plus élevées de l'esprit, et devraient être portées vers les objets les plus élevés, et non vers des choses passagères sous le soleil, par lesquelles on ne peut connaître ni l'amour ni la haine. Mais hélas, combien sont abattus par les pertes et exaltés par les profits et les gains. Ô mes amis, prenez garde à cet état changeant et incertain, car tandis que certains ont trop attaché leur esprit aux choses de ce monde, ils se sont écartés de la foi et ont mis leur confiance dans des richesses incertaines, et lorsque celles-ci ont pris des ailes et se sont envolées, leur espérance est partie avec elles. C'est pourquoi je vous en prie, chers amis, gardez-vous de laisser vos esprits s'aigrir et s'exciter au sujet de ces choses extérieures. Prenez garde d'étendre vos métiers et vos trafics au-delà de vos moyens et de votre capacité, car ces deux maux ont été la ruine de certains. Tout homme qui a les moyens n'a pas la capacité pour de grandes choses, et tout homme qui a la capacité n'a pas forcément les moyens, et là où l'un ou l'autre manque, de tels doivent se contenter de choses modestes et petites, qu'ils sont capables d'administrer et en mesure d'atteindre, et ne pas trop s'appuyer sur l'un pour ensuite chercher, par des moyens détournés, à rendre l'autre conforme. Car nul ne connaît d'avance l'issue, et par conséquent, même en ces choses, chacun doit attendre de connaître la direction du Seigneur et se soumettre à sa volonté, quoique cela aille à l'encontre de la sienne. Comme l'apôtre l'a dit au sujet de ce qui disait, « Nous irons dans telle ville, nous achèterons et vendrons, et nous ferons du profit. » Toutes ces choses étaient licites en elles-mêmes, cependant, dit-il, vous auriez dû dire, si le Seigneur le veut. Ainsi celui qui dit, « J'augmenterai mon commerce et j'élargirai mes entreprises afin d'augmenter mon gain », doit même en cela dire, si le Seigneur le veut. Ô amis, attendez de sentir la main gouvernante de Dieu en ces choses, afin qu'il vous gouverne dans vos affaires, de sorte qu'il soit reconnu par vous, aussi réellement Seigneur de la terre que du ciel, souverain de vos échanges et de vos transactions aussi bien que de votre religion et de votre profession. Troisièmement. Et amis, je désire que vous vous souveniez que la couronne de notre profession était que notre oui fut oui et notre non fut non, et il en est encore ainsi pour tous les fidèles disciples de la vérité. Cependant, trop nombreux sont ceux qui ont laissé entrer une fausse liberté depuis leur première conviction, et non pas le respect qu'ils devraient avoir pour leurs paroles, au grand déshonneur de Dieu, à la peine des justes et à la blessure de leurs propres âmes. Oh. Mes amis, que chacun qui s'y est laissé surprendre le corrige, puisque vous portez atteinte à l'honneur de Dieu, à votre propre prospérité et au bien d'autrui. En prenant une fausse liberté, bien des pierres d'achoppement ont été placées sur le chemin de certains qui étaient proches de la vérité, ils sont tombés et se sont perdus. Mais ceux qui ont posé ces pierres d'achoppement ne seront pas trouvés quittes de leur sang au jour de l'inquisition du Seigneur. Que tous donc prennent garde, pour l'avenir, d'être fidèles à leurs paroles. Car d'une certaine manière, tous ceux qui professent la vérité la mettent en gage, autant qu'il est en eux, ou du moins leur part de la vérité, chaque fois qu'ils font une promesse ou signent un billet ou une obligation pour un paiement effectué au temps mentionné dans la dite promesse, le dit billet ou la dite obligation. et un tel n'a alors plus le pouvoir de disposer du paiement au temps fixé sans le consentement de la partie envers laquelle il s'est ainsi engagé, et s'il retarde de lui-même ou refuse le paiement, il perd ce qu'il a mis en gage. Or, lequel d'entre vous, ayant mis en gage sa veste ou son manteau pour la moitié de sa valeur afin de le racheter tel jour, ou de le perdre, ne serait pas très soigneux d'observer ce jour-là. Mais oh, combien ce gage est d'une plus grande valeur, lorsque la vérité est en jeu, et je suis certain que ceux qui l'aiment véritablement en prendront plus de soin que d'un manteau, d'une veste ou de toute chose terrestre. Ainsi, les moyens de prévenir tous ces manquements doivent être remarqués. Et d'abord, que nul ne se jette dans la nécessité par des voies détournées, comme en se surchargeant en commerce, ni en achetant plus qu'il ne peut assumer, ni par la caution astérisque qui garantit une dette supposée, mais incertaine, et donc d'autant plus dangereuse puisqu'elle peut vous tomber dessus à l'improviste, avant que vous y soyez préparé. Avec sagesse, ces choses doivent être prévenues d'avance. Astérisque une garantie par une personne de la dette contractée par une autre personne, fortement interdite par l'Écriture, Prov. 22-26. De même, quiconque, pour une juste raison, emprunte astérisque et donne sa parole sur la réputation de la vérité, par promesse, billet ou obligation, doit au même moment avoir en vue quelque chose de très certain par quoi il sera en mesure de tenir parole, et ne pas se fier au retour d'entreprise, à l'accroissement des récoltes, au gain du commerce, au fait que d'autres tiendront leur parole envers lui, ou à toute autre incertitude semblable. Car si quelqu'un agit ainsi, il peut se trouver pris dans ce piège d'être infidèle à sa promesse avant même de s'en apercevoir. Mais bien qu'il y ait une sorte d'incertitude en toutes ces choses d'ici-bas, pourtant, lorsque la vérité et la profession d'un homme sont ainsi mises en gage et doivent être récupérées ou perdues, il doit, comme je l'ai dit auparavant, avoir en vue quelque chose de très sûr, par quoi il puisse sauver sa parole, comme de l'argent dont il sait qu'il est à sa disposition ou des biens en sa possession ou des terres libres, qui peuvent être engagées si le pire arrive. Car vous trouverez plus de paix dans votre conscience et une meilleure réponse de la vérité à contracter un nouvel engagement sur des terres ou des biens, qu'à rompre un ancien engagement concernant votre vérité et votre profession. Astérisque, il est conseillé aux chrétiens de rester hors de la dette et de ne rien devoir à personne, sinon de s'aimer les uns les autres. Rome 13-8. Le seul emprunt admissible serait l'usage du crédit comme commodité de commerce, par exemple accepter des conditions nettes 30 sur une facture, mais avec suffisamment d'argent en main pour payer. Ou utiliser une carte de crédit par commodité, mais en payant toujours le solde mensuel, ce qui n'est donc pas une dette. Chers amis, mon cœur est très rempli sur ce sujet, et je pourrais en écrire beaucoup, mais par amour et bonne volonté, je vous épargne, croyant qu'une parole au sage suffira, car si l'on broie un insensé dans un mortier, il ne se départira pas de sa folie. Ainsi donc, chers amis, soyez sages en toutes ces choses, afin de ne pas être en servitude et en esclavage aux choses de cette vie, mais d'avoir sur elles une domination et un règne selon votre vocation en Jésus-Christ, de sorte que chacun de vous puisse porter sa couronne, et que nul n'est justement sujet contre l'un de vous pour dire « le oui d'un tel est non ». Car alors il prend votre couronne et votre gage, ce qui est difficile à regagner. Ô amis, je vous écris ces choses dans un véritable amour et dans un saint respect pour le saint nom de Dieu, qui est connu parmi nous. Ne laissez donc pas une sagesse évasive s'élever contre cette parole d'exhortation pour l'appliquer de travers, mais recevez-la dans l'amour et la douceur, comme venant de celui qui travaille à votre prospérité et vous avertit des pièges de l'ennemi de vos âmes. Quatrièmement, amis, la chose suivante qui me pèse concerne ceux qui ont été élevés et instruits parmi nous, qui ont grandi et qui font profession de la même voie et de la même vérité dans lesquelles ils ont été instruits. Que tous ceux-là prennent garde de ne pas se reposer dans une simple forme éducative de la vérité, sans égard au travail intérieur de leur âme et à leur croissance dans la puissance de la piété. Car les pièges de l'ennemi de leurs âmes sont profonds en cette matière, et son œuvre est d'attirer leurs pensées dans le monde, tandis que leur corps et leur profession publique demeurent parmi les amis, et de les maintenir à l'aise et libres de la croix quotidienne et de la puissance crucifiante, par laquelle ils devraient travailler à soumettre en eux cette nature qui a grandi durant leur jeunesse, sous cette profession comme sous toute autre, là où l'on ne prête pas diligemment attention à la puissance. Par ce moyen, beaucoup sont et demeurent impropres au témoignage de la vérité, faute d'être enracinés et fondés en elle, par un combat expérimental dans leur propre cas particulier. Car mes amis, je vous dis dans la parole du Seigneur, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu, et si vous ne pouvez le voir, quelle valeur y a-t-il dans ce que vous voyez? Car toute vue, toute vision, tout dévoilement des choses ne sauveront, ni ne délivreront vos âmes au jour de l'épreuve qui viendra pour éprouver votre foi. Alors, si votre foi ne consiste que dans des mots et des termes, même si les mots sont vrais, elle vous fera défaut en ce jour-là, et vous ne pourrez pas tenir. Ainsi, chers amis, abaissez-vous dans la petitesse et l'humilité, et attendez de sentir la puissance se révéler en vous, comme elle s'est révélée en nous au commencement. joignez-y vos pensées, dans une foi vivante, afin de venir à expérimenter sa puissance de condamnation, pour juger toute pensée vaine et tout désir exalté, ainsi que toute parole oiseuse et toute action mauvaise. Ainsi, par le pur jugement de la vérité, vous viendrez à témoigner un nettoyage et une soumission de cette nature qui convoite dans la désobéissance à la juste loi de Dieu dans vos cœurs. À mesure que cette nature est tenue sous la croix quotidienne, elle s'affaiblira et mourra chaque jour en vous. Et plus elle sera rendue faible, plus vous sentirez les vivifications puissantes de la parole de Dieu dans vos âmes, et une vie tendre germera en vous, pour votre grande consolation, qui veillera affectueusement à la gloire de Dieu, ainsi qu'à l'honneur et à la réputation de votre profession. En vous joignant à cette vie, vous connaîtrez les travaux de la vraie Sion, la mère de nous tous, qui n'enfante qu'au travers de profonds exercices. Bien que cela vous détourne des délices, des plaisirs et de l'orgueil de ce monde, la faim compensera toute votre tristesse et tout votre travail. Car cela vous conduira à connaître le prix de la vérité et vous apprendra à l'estimer, ainsi que tout témoignage qui la concerne, au-dessus de toute chose passagère et périssable, tandis que d'autres, étant venus légèrement à leur profession, l'estimeront légèrement et la laisseront aller de même. Ainsi mon travail et mon cri sont que vous soyez sages pour le salut, et c'est dans ce but que je vous envoie ceci, afin que vous soyez amenés à éprouver vos fondements, chacun en vous-même, avant qu'ils ne soient éprouvés pour vous. Car alors il sera trop tard pour venir au vrai fondement, ou du moins ce sera avec une plus grande difficulté. Quand le cri de minuit se fait entendre et que vient le temps d'entrer, il sera trop tard pour acheter de l'huile pour vos lampes, et alors ceux qui ont une lampe sans huile seront exclus. Ainsi estimez votre temps et examinez-vous. Quelle raison avez-vous en vous-même de faire profession du nom et de la voix de Dieu, au-delà du fait d'y avoir été instruit et élevé par vos parents, tuteurs ou maîtres? Avez-vous jamais senti la vertu céleste de cette voix couvrir vos âmes? Si oui, en conservez-vous encore le parfum sur vos esprits? Sentez-vous en vous cette crainte, cette peur et cette révérence de la présence du Seigneur que le peuple du Seigneur ressentait au commencement de ses jours et que les fidèles ressentent encore? La jouissance intérieure de la vie de la vérité est-elle pour vous une joie plus grande que toutes vos jouissances extérieures? Si oui, alors vous ne la vendrez pas et ne vous en séparerez pour rien au monde. Et les témoignages en faveur de la vérité ne seront pas traditionnels, mais issus d'une conviction sensible en eux-mêmes, de sorte qu'ils pourront dire « Ces choses, nous les avons reçues du Seigneur, et ce sont les témoignages de Dieu manifestés à nous dans la lumière de son Fils Jésus-Christ, en qui nous avons cru. » Ô amis, comme cela repoussera la tempête des tentations qui viendront, tant intérieurement qu'extérieurement, en un temps de trouble, combien sont ceux qui, faute de cette assurance expérimentale en eux-mêmes, ont été amenés à de grandes remises en question et à des doutes, et ne savaient où aller, en arrière ou en avant. Beaucoup ont boité et chancelé, certains sont tombés et ne se relèvent plus, pour leur ruine et celle d'autrui. Ainsi, mes chers amis, ne vous fiez pas aux résolutions de vos propres esprits sans le sentiment de la puissance, ni à la réception de la vérité par votre éducation, mais attendez tous d'être rendus vivants et de véritables témoins de l'élévation de la puissance dans vos propres cœurs et de la poursuite de l'œuvre de la puissance en vous-même, pour vous régénérer et vous conduire à cette naissance qui ne se confie en rien sinon dans le Seigneur seul, et qu'il a pour soutien dans les plus grands exercices. Alors vous tiendrez ferme et demeurerez, et vous serez une génération choisie de Dieu pour porter son nom et son témoignage, et le transmettre à la génération suivante, cinquièmement. Et amis, que l'amour fraternel qui a été semé dans vos cœurs comme une précieuse semence lors de votre première conviction, demeure et augmente chaque jour, afin que comme vous êtes rendus participants d'une même espérance de salut en Jésus-Christ, vous demeuriez d'un même esprit et d'un même cœur, selon l'opération de son esprit en vous. Ayant un tendre respect les uns pour les autres, comme des enfants d'un même père et comme ceux qui se nourrissent à une même table. Car Christ a établi, et établi, dans toutes ces églises que nous nous aimions les uns les autres, que nous évitions toutes les occasions d'offense et de chagrin, que nous marchions avec ordre et comme il convient à son saint évangile, afin que nous soyons un honneur pour l'évangile et une force et un réconfort les uns pour les autres. Voilà notre grande ordonnance, notre commandement nouveau, qui était aussi dès le commencement et qui demeurera toujours le même à travers toutes les générations. C'est pourquoi, mes amis et frères, que les fruits d'un amour sincère et fraternel abondent parmi vous en paroles et en actes, et que nul ne manque d'accomplir la loi de l'amour, sans laquelle toute profession ne sera que comme un airain qui résonne ou une cymbale retentissante. Mais si l'on s'attache à cette loi, la vie de la religion se fera sentir, et par elle chacun sera instruit de son devoir et de sa charge envers l'autre, et saura comment consoler dans la charité, admonester dans l'amour, reprendre dans l'amour, et aussi recevoir toutes ces choses dans l'amour. Cela exclura à jamais les chuchotements et la médisance, et amènera chacun à agir franchement et droitement envers tous, ne laissant pas le péché demeurer sur l'âme de son frère, mais traitant avec lui promptement, clairement et avec tendresse, comme vous voudriez qu'on traitât avec vous. Quelle que soit la manière dont ce traitement est reçu, vous ne manquerez pas votre récompense, mais votre paix demeurera avec vous. Car tant que les yeux des amis restent fixés sur la puissance de Dieu comme leur guide et leur conducteur en toutes ces choses, et que leur dessein est simplement la gloire de Dieu, la purification de leur propre conscience et le bien de leurs frères, ils ne se décourageront pas dans leurs entreprises. Car ils savent que la puissance l'emportera certainement sur tout ce qui s'y oppose, et cela gardera vos esprits tranquilles et exempts de troubles, lorsque vous verrez des hommes, des choses et des parties s'élever contre la puissance, sachant que la puissance est un rocher éternel. Mais quant aux choses qui paraissent s'y opposer, elles ne durent qu'un temps. En ce temps-là, la patience doit être exercée, le conseil de la sagesse doit être suivi, et alors vous serez préservés du vacillement ou de la dispersion par toutes les belles apparences que l'esprit d'opposition peut produire. Car ceux qui jouissent de la vie et de la substance, et se nourrissent chaque jour du pain descendu du ciel, ont un sens vif et un discernement des choses qui leur sont présentées, et savent reconnaître ceux qui sont de la terre, terrestre à leur saveur terrestre, et ceux qui sont célestes à leur saveur céleste. Ils savent ce qui nourrit la tête, l'esprit vif et la raison charnelle, et ce qui nourrit l'âme immortelle. Ainsi ils deviennent affermis, ne sont pas prompts à se nourrir d'un aliment sans saveur, ni à être aisément ballottés, ni troublés par de mauvaises nouvelles. Ils ne peuvent non plus être entraînés derrière une chose ou un homme par affection, ni dressés contre un autre homme ou une autre chose par préjugé. La vraie balance d'un jugement saint, établie dans la connaissance divine, selon la mesure que le Père a accordée, les maintient fermes dans leur voie, tant à l'égard de leur propre témoignage et conduite qu'à l'égard de leur relation avec autrui. Oh, mes chers amis, en de telles la vérité brille, et de tels sont les vrais disciples de Christ, et ils méritent d'être suivis, car leur voie est comme une lumière qui luisant jusqu'au jour parfait. Et dans cette voie sûre et stable, le désir de mon âme est que vous et moi marchions, et continuions de marcher jusqu'à la fin de nos jours, en toute sobriété, vérité, justice, droiture et amour, comme de bons exemples en notre temps et de réconfortants précédents en notre fin pour ceux qui demeureront. Afin que nous puissions transmettre tous les témoignages de notre Seigneur Jésus aux générations suivantes, aussi purs, aussi certains et aussi innocents que nous les avons reçus au commencement, et qu'au terme de tous nos travaux, voyages, épreuves et exercices, nous puissions reposer nos têtes dans ce sabbat de repos qui demeure à jamais pour le peuple du Seigneur. Voilà le désir ardent qui vit en moi pour vous tous qui avez cru en notre Seigneur Jésus-Christ, en son nom, et dans le sentiment de sa puissance et de la vie qu'il a révélée en chaque membre de tout son corps. Je vous salue tous et vous dis adieu. Stephen Crisp, une lettre conjointe décrivant les abus subis par les Quakers de la part d'étudiants en théologie lors d'une réunion à Cambridge. Peu après la restauration du roi Charles Yee, une lettre lui fut présentée, signée par 29 personnes ayant souffert lors d'une réunion à Cambridge le 2 jour du 5e mois 1660. Cette lettre, donnant une juste idée de la persistance de la persécution en ce lieu, et de la franchise et simplicité chrétienne du langage dont il usait alors envers les personnes investies de la plus haute autorité, est la suivante. Au roi Charles Yee, nous ne sommes pas un peuple prompt à se plaindre sans grande cause, ni enclin. Mais les choses qui nous sont récemment arrivées à Cambridge, étant tout à fait contraires à vos déclarations de liberté et de protection envers ceux qui se soumettent à votre gouvernement et vivent en paix, et portant grandement atteint à l'honneur de votre engagement royal pris tout particulièrement envers nous, votre autorité étant invoquée pour les plus grossiers méfaits et les plus hautes insolences, par quoi vous pouvez être abusé autant que nous, comme déclarant une chose et en ayant une autre en vue, et beaucoup de mal pouvant s'en suivre si de telles choses. C'est pourquoi nous ne voulons pas le cacher au roi, afin qu'un remède soit apporté contre de si présomptueux délinquants, ou du moins que l'on empêche le retour de semblables faits à l'avenir, afin que les jugements de Dieu, si possible, soient détournés eux qui sont prêts à tomber sur cette nation, sans prompt repentir et réforme, à cause du tort fait à ses enfants et serviteurs, et afin que vous soyez préservés au mauvais jour de la colère de l'agneau, qui fait la guerre aux nations et prononce son terrible arrêt et sa sentence contre la prostituée. Il vous soit connu, ô roi, que le 2 jour du 5e mois, tandis que nous nous rassemblions pour une réunion générale, au lieu accoutumé, qui était notre propre maison louée, une foule tumultueuse d'étudiants, de femmes débauchées, de bourgeois et de garçons se rassembla aussi autour du lieu de réunion, comme les hommes de Sodome, non comptant des injures, insolences et indignités antérieures, exercées et manifestées envers les disciples de l'agneau environ un mois auparavant, n'y ont tenu craintif de faire les mêmes choses de nouveau. Certains d'entre eux s'étaient préparés par un excès de boisson, afin d'oublier toute humanité et de ne montrer aucune miséricorde. Ils ne laissèrent personne passer sans quelque abus, nous arrêtant et nous poussant çà et là, en jetant certains à terre, ou en lançant de la boue ou des immondices sur leurs vêtements ou à leur visage, frappant aussi certains pour les renvoyer en arrière, et ne leur permettant pas d'entrer à la réunion, mêlant moquerie, injures et menaces aux autres mauvais traitements, et ne s'arrêtant pas là, ils se jetèrent sur nous dans notre réunion. Et bien que ceux qui étaient entrés dans la maison nous eussent frappés avec tant de cruauté, leur garde extérieure ne nous laissa pas passer avant d'avoir, eux aussi, satisfait leur esprit sanguinaire en nous frappant de nouveau, de sorte que beaucoup d'entre nous furent grièvement blessés et meurtris. 22 eurent le sang versé, l'un fut si estropié qu'il resta en arrière, incapable de marcher dehors, et une femme fut presque tuée par leur cruel traitement, et outre cela certains d'entre nous perdirent leur chapeau, et beaucoup purent leurs vêtements déchirés et fortement maculés et souillés. Et pourtant nos persécuteurs ne furent pas satisfaits de tout cela. Lorsqu'ils nous eurent chassés de la maison et eurent vidé les rues de notre présence, ils revinrent et abattirent entièrement le reste des murs et des travées de chaque côté de la maison de réunion, près de deux entrées, l'ouvrant tout entière sur la rue. Puis ils nous cherchèrent et nous traquèrent encore de haut en bas dans la maison de réunion. Et ceux sur lesquels ils mirent la main furent fort maltraités, et ils nous assaillirent aussi dans la maison d'un échevin où quelques-uns d'entre nous logeaient. Ils battirent le maître de la maison sur le pas de sa porte, et ne partirent pas tant qu'il fit jour. Nous, dont les noms sont ci-dessous souscrits, avons été des souffrants, et sommes témoins que les choses ci-avant écrites sont vraies. John Moon, William Pepe, John Anslow, John Parker, John Webb, Daniel Ward, George Clark, John Forster, Henry Marshall, John Adams, Jeremy Hearn, Stephen Crisp, Gregory Tingey, Daniel Wallis, Benjamin Lin, William Turney, Gilles Fichet, William Witham, Philip Williamson, Jeremy Wood, Josiah Cole, John Ostley, William Wobby, Stephen Hart, Thomas Harry, Thomas Penn, James Allen, John Pollard, Thomas Roos. Au cas où vous penseriez qu'il s'agissait d'un incident isolé, cliquez ici pour lire le récit d'un groupe encore plus horrible de jeunes ministres sataniques à Oxford. Un mot de réprimande aux prêtres et aux ministres, ce mot est pour vous, ô vous prêtres. En vain sont tous vos voiles, car la lumière de notre Dieu s'est levée et vous a découvert, et sa puissance a déchiré et déchire vos voiles, et sa controverse est proclamée contre vous, et il a fait sortir sa petite armée, petite à vos yeux, mais qui est une puissante multitude par la puissance de son esprit, sur laquelle il accomplit sa promesse, qu'un seul en poursuivra cent, et que dix en mettront mille en fuite. Comme nos pères l'ont fait, ainsi faisons-nous, en ce jour de notre Dieu, en un sens spirituel, par la foi, nous mettons en fuite les armées des étrangers, nous fermons la gueule des lions, et nous obtenons des promesses, etc. Vous-mêmes en êtes témoins par vos pratiques. Vous n'êtes pas capables de tenir ferme, mais vous fuyez souvent, lorsque la vie de Dieu se lève en quelqu'un pour vous parler, quoi que ce soit, à vos yeux, par des instruments méprisables, et ainsi, des centaines d'entre vous ont été mis en fuite sans épée ni lance. Alors vous courez de votre culte à la maison de votre arsenal, où vous vous équipez des armes de la guerre de la bête, fouets, ceps, prisons et choses semblables, dans l'armée de laquelle on vous trouve combattant contre l'agneau et son armée, par lesquelles vous serez vaincus, et vos carcasses jetées au champ ouvert. Maintenant sont mises en lumière vos œuvres de ténèbres, et vos grandes paroles enflées de vanité, et là elles sont éprouvées et jugées, ce qui est notre règle pour éprouver et juger. Puisque vous dites que les Écritures sont votre règle, par laquelle les choses doivent être éprouvées et jugées, vous et vos œuvres serez aussi éprouvées par les Écritures, afin que vous puissiez être condamnés par l'une et par l'autre. Premièrement, vous dites que vous êtes ministres du Christ, non, mais vous êtes les ministres de celui que vous servez et auquel vous obéissez, et dont vous faites l'œuvre. Or le péché est l'œuvre du diable, et Christ a été manifesté en chair pour la détruire dans la chair. Et vous, qui niez la destruction du péché en cette vie, vous la niez dans la chair. Car celui qui quitte cette vie sort de la chair et la laisse, et ainsi vous niez l'œuvre du Christ, dont vous dites être les ministres, et nul n'est serviteur ni ministre du Christ, qui nie son œuvre. Maintenant lisez et considérez, le péché et l'homme du péché sont contre le Christ, et les ministres de celui qui est contre le Christ s'efforcent toujours de maintenir et de soutenir ce que Christ et ses ministres s'efforcent de détruire et d'abattre, à savoir le péché dans la chair. Et ainsi il est manifeste que vous, qui vous efforcez de soutenir le péché, vous soutenez l'Antichrist, dont vous êtes les ministres. De nouveau, Christ a dit à ses ministres, « Allez, etc., mais où est votre départ ?» Alors que quelques-uns d'entre vous se sont achetés des places, que d'autres les ont obtenues par flatterie, et que d'autres encore détiennent par force et tyrannie un certain lieu, circuit ou quartier d'où vous cherchez votre profit, et là, vous n'avez pas honte d'ester en justice pour un titre, comme recteur, titulaire ou lecteur d'un tel lieu. Ô horreur ! Que de tels hommes disent qu'ils sont ministres du Christ, oui, et quelques-uns d'entre vous peuvent se vanter et se glorifier de leur honte, disant dans vos déclarations que vous avez été en tel endroit, les uns 20, les autres 30, les autres 40 ans. A-t-on jamais entendu pareille chose au sujet de l'un des ministres du Christ ? N'était-il pas approuvé dans leur ministère par des épreuves, par des voyages, par des privations et des dangers, tant sur mer que sur terre, dans le besoin, dans l'affliction, etc. Mais vous avez choisi les plaisirs du péché et de vivre à l'aise dans la chair, Mais la destruction et la misère vous surprendront en un jour où vous ne vous y attendrez pas, vous qui ne voulez pas être avertis. De nouveau, Christ a dit à ses ministres, « Tout pouvoir m'a été donné, et je suis avec vous. » Il n'a pas dit, « Tout pouvoir m'a été donné, et je le donnerai aux magistrats, et si quelqu'un vient s'opposer à vous à votre doctrine, allez à lui, il vous défendra. » Ils avaient le témoignage en eux-mêmes, et la puissance était avec eux, et elle est avec eux jusqu'à la fin du monde, ce qui ferme la bouche des opposants. Cette puissance est la puissance du Christ, que les ministres du Christ ont selon la promesse, et la puissance de l'Antichrist, les ministres de l'Antichrist l'ont, ce qui se manifeste dans les persécutions, la violence, les tumultes et choses semblables. Puissance qui est votre défense, vous qui dites être ministre du Christ et ne l'êtes pas, mais êtes ministre de l'Antichrist, et ainsi reconnu menteur, condamné et dénoncé, tant par la lumière que par les Écritures. Deuxièmement, vous dites que vous prêchez l'Évangile. Non, ce n'est pas l'Évangile du Christ que vous prêchez, mais un autre, et celui qui l'apporte est maudit, car l'Évangile du Christ est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Mais ce que vous prêchez n'est pas cela, non pas même pour ceux qui y croient, vous qui prêchez qu'ils ne peuvent être sauvés délivrés du péché. Ainsi, s'ils croient ce que vous déclarez, ils doivent croire qu'ils ne peuvent être sauvés de l'esclavage du péché pendant cette vie. Ce n'est donc pas la puissance ni l'Évangile du Christ que vous prêchez, mais la puissance des ténèbres pour maintenir tous dans la mort, hors de la foi, qui donne la victoire, et par laquelle la créature vient à connaître l'Évangile et la puissance qui sauve et rachète jusqu'à Dieu. De nouveau, l'Évangile est éternel, et nul ne peut le prêcher, si ce n'est ceux qui l'ont reçu. Vous dont la connaissance se tient dans des arts et des sciences charnelles, et des inventions, qui sont venues dans le temps et doivent périr dans le temps, votre connaissance ne peut recevoir l'Évangile éternel lorsqu'il vous est prêché, et encore moins le prêcher aux autres. Dans cette connaissance, vous vous corrompez vous-même et corrompez les autres, et vous êtes prêts de périr ensemble dans votre corruption, à moins que vous ne vous tourniez vers la lumière qui était avant la corruption, afin qu'elle vous montre la corruption et vous en conduise hors, pour que vous ne périssiez pas. Car à ceux qui sont dans le chemin périssant, qui est corrompu, l'Évangile éternel est caché. De nouveau, ce que vous prêchez n'est ni gratuit ni sans frais, mais l'Évangile l'était et l'est. Tant que se trouvent parmi vous la contrainte et la violence, l'orgueil et la convoitise, qui rendent ce que vous prêchez onéreux et coûteux pour le peuple, cessez de l'appeler l'Évangile du Christ. Car si vous l'appelez ainsi, la lumière dans toutes les consciences vous condamne, et la pratique des apôtres du Christ vous condamne, et les Écritures déclarent contre vous, et votre condamnation est juste, et demeurera à jamais. Troisièmement, vous dites que vous prêchez la vérité. Non, ce n'est pas la vérité que vous prêchez, car elle ne libère personne, car beaucoup sont demeurés longtemps dans votre doctrine et votre culte, certains 20, certains 40, et certains 60 ans, et pourtant ne sont pas affranchis. Mais vous les avez amenés à croire qu'ils ne peuvent être libérés, et ainsi vous les avez fait s'égarer du droit chemin. De tels peuvent mourir dans leurs iniquités, mais leur sang sera redemandé de vos mains, vous qui les avez séduits et trompés. Mais Christ Jésus, la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant au monde, afin que tous les hommes croient par lui, a dit, « Si vous demeurez dans la vérité vous rendra libre. » Il est la lumière, la vraie lumière, et la vérité qui a franchi. Et vous qui niez la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et qui pourtant dites que vous prêchez la vérité, vous êtes des menteurs, et l'étang sera votre part, à moins que vous ne vous repentiez. De nouveau, ce que vous prêchez, vous le vendez, et ainsi vous êtes expressément dénoncé par l'Écriture, puisque vous dites prêcher la vérité, car que dit-elle, achète la vérité et ne la vend pas. Lisez votre condamnation, vous tous qui faites commerce de ce que vous appelez vérité, et que la lumière dans vos propres consciences juge si vous ne niez pas l'Écriture, oui ou non. Quatrièmement, vous dites que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Je réponds, celui à qui l'Évangile du Christ est confié pour être prêché, nul ne peut l'empêcher d'en vivre, car c'est sa vie, et il n'a pas besoin d'une loi extérieure pour soutenir ses moyens de subsistance. Aucun de ceux qui ont jamais prêché l'Évangile n'a fait usage d'un tel pouvoir. Leur pouvoir, ils l'avaient et ils ne l'ont, que de Christ Jésus, tant pour le soutien intérieur que pour le soutien extérieur. N'avons-nous pas le pouvoir de manger, n'avons-nous pas le pouvoir de boire, dit l'apôtre, qui était ministre du Christ. Mais il n'avait pas le pouvoir de faire marcher avec quelque peuple que ce soit pour l'établissement certain d'une somme d'argent, puis de chercher en plus une augmentation, comme certains de vous le font, et ensuite d'ester en justice pour défaut de paiement. Et si elle était payée, de la dépenser ensuite dans la volupté au service de sa convoitise, comme vous le faites, les uns dans la convoitise de l'ivrognerie et de la gloutonnerie, les autres dans l'orgueil, satisfaisant vos convoitises en vêtements et en bâtiments, et d'autres dans l'avarice, faisant de l'art. Ainsi vous vous êtes choisis des dieux qui périront avec vous, et ils ne vous sauveront pas, mais votre nudité et votre honte, la lumière les a découvertes, vous qui avez refusé d'être couverts par elles, Et tant que vous vivez dans l'orgueil et la gloutonnerie, dans l'envie et l'avarice, dans la crêle et la contention, ce n'est pas vivre de l'Évangile, mais c'est le fruit de l'arbre corrompu qui est pour le feu. Oui, le Seigneur veillera à ce que ses vrais ministres reçoivent leur subsistance de l'Évangile et que leurs besoins matériels soient pourvus, mais non en demandant de l'argent et ou en réclamant des dîmes qui ont pris fin avec le sacerdoce lévitique, en même temps que la loi. Les bénéficiaires, reconnaissant de leurs paroles de vérité, prononcées par l'Esprit de Dieu, subviendraient à leurs besoins par des dons spontanés. Comparé aux bienfaits spirituels que le peuple recevait des vrais ministres du Christ, ce n'était qu'une petite chose s'ils moissonnaient des biens charnels comme dons gratuits. Paul déclare qu'il ne prendrait aucun argent, même des dons non sollicités, parce qu'il supporterait tout plutôt que de faire obstacle à l'Évangile. Il accepta plus tard deux dons non sollicités, pour lesquels il fut reconnaissant et dit qu'il avait été dans un grand besoin. Cinquièmement, vous dites que l'ouvrier mérite son salaire. Oui, mais il doit le recevoir de celui qui le met au travail et qui profite de son travail. Or celui qui travaille pour un homme et voudrait recevoir salaire d'un autre, qui ne l'a pas mis au travail, est déraisonnable, et il en est de même d'un homme qui exige un salaire pour son travail alors que personne ne tire profit de son travail, comme on le voit aujourd'hui parmi vous, prêtres, qui est hors de la raisonnabilité et du bon ordre, où la plupart des hommes, vous exceptés, se tiennent à cet égard. Luc 10, 1-8 est la source où nous avons le récit de Jésus envoyant ses disciples, avec des informations supplémentaires. Jésus dit « Et demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, si l'on vous reçoit, si l'on vous accepte et vous accueille, mangez ce qui sera mis devant vous. Ainsi, ici Jésus dit « Mangez et buvez ce qu'il vous donne, parce que l'ouvrier mérite son salaire. » Ce qu'ils fournissent est le salaire que le Christ permet, mangez ce qui est mis devant vous. Ce n'est pas une justification pour demander ou faire payer les gens pour leur travail, ni même pour prévoir un quelconque mécanisme de boîte de collecte, ni un lien cliquable pour des dons, ni des dons d'amour. Soyez donc honteux et réformez vos voies, et travaillez de vos mains à ce qui est bon, afin que vous puissiez venir manger du fruit de votre travail et être rassasiés, et ne soyez pas toujours comme les chiens muets et avides qui n'en ont jamais assez. Car voici venu le jour qui a mis votre œuvre en évidence, et vous êtes saisis et sondés, et mesurés avec une ligne égale, et vos couvertures sont trop étroites, et le pied de votre imar est frappé, et la pierre croît pour remplir toute la terre, et alors votre place ne se trouvera plus, et la récompense de votre travail sera destruction, malheur et misère que vous recevrez de la main du Dieu juste, le juge du ciel et de la terre, qui jugera chacun de vous selon ses œuvres, et alors toutes vos paroles dures que vous avez proférées contre l'innocent. Ceci est publié par l'Esprit de vérité, pour manifester et reprendre l'esprit d'erreur, et écrit en obéissance au commandement du Seigneur, l'année comptée 1657, Stephen Crisp. Une description de l'Église d'Écosse, avec un mot de réprimande aux prêtres, aux enseignants et aux officiers qui s'y trouvent, à cause de leurs nombreuses doctrines et pratiques corrompues, ainsi qu'un avertissement et une invitation générale à tous les gens qui vivent sous leur gouvernement tyrannique à venir à la vérité, qui les affranchira de la servitude sous laquelle ils ont longtemps été couchés, et à la lumière, qui leur montrera le chemin pour échapper à la participation à leurs péchés, et ainsi ils échapperont à la participation au fléau qui ici est rendu manifeste leur Église 1. Dans son fondement, 2. Dans ses membres dont elle est bâtie, 3. Dans ses officiers, 4. Dans ses doctrines de Dieu, de la parole de Dieu, de la foi et de l'élection, 5. Dans ses ordonnances du baptême et de la scène du Seigneur, comme il les appelle. 6. Dans sa discipline, avec une exhortation à tous les gens de sortir du milieu d'eux, pour venir à ce qui les rend manifestes, à savoir la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Écrit par amour pour les cœurs simples de cette nation, et en témoignage de la vérité, et en témoignage contre les faux enseignants, et leurs fausses doctrines, voies et cultes, par un homme qui désire que le peuple soit amené à la vérité dans ses parties intérieures pour y adorer Dieu, sous la conduite de son propre esprit, afin d'être agréé, moi qui suis connu parmi les hommes sous le nom de Stephen Crisp. À divers presbytres d'Écosse, et à chacun de leurs membres, et à l'Église d'Écosse en général, ceci est adressé et envoyé comme une parole de réprimande et d'avertissement de la part de celui qui est la tête de la vraie Église, qui est pure et sans tache, et envoyé par et donné par l'entremise de son serviteur, lequel, étant membre de cette Église et participant de la puissance et de la sagesse de la tête selon la mesure d'un membre, comprend par là votre Église dont je ne suis pas membre, et en obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Dans la crainte et au nom du Seigneur, je vous avertis de revenir et de venir à ce qui rend manifeste et purifie, avant que vous ne soyez jetés sur le lit de misère et de tristesse perpétuelle avec Babylone votre mère et Jézabel votre prophétesse, par la puissance des enchantements et sortilèges de laquelle, parmi ses marchands et disciples, beaucoup de pauvres gens dans cette nation sont séduits et trompés, et tenus éloignés de l'onction qui enseigne gratuitement la vérité de laquelle aucun mensonge n'est, ni ne procède. Ce que vous tenez éloigné de ce qui enseigne gratuitement, afin qu'ils achèrent ou loutent auprès de vous un enseignement, parmi lesquels ils apprennent toujours et n'apprennent jamais, et ne sont pas amenés à connaître la vérité qui a franchi ce qui demeure, cela, dis-je, ne peuvent jamais connaître la vraie Église, qui est le fondement de la vérité, dans laquelle nul ne peut être colonne, sinon ceux qui vainquent le péché, la transgression et la mort qui est entrée et s'est étendue sur tous les hommes, état dans lequel l'Église de Dieu n'est pas. Il n'y a que deux états, l'état du péché et de la transgression, dont le salaire est la mort, et l'état de la rédemption hors du péché, qui est par la puissance de la résurrection d'entre les morts, et qui est l'état de l'Église. Entre ces deux états, il y a une antipathie absolue, aversion intense, car ceux qui sont dans la transgression ne sont pas dans l'Église, car alors elle serait souillée, et ceux qui sont dans l'Église ne sont pas dans la transgression, parce que l'Église est en Dieu, où la transgression ne peut être. Ceux qui sont retenus dans le péché et la mort ne sont pas ressuscités d'entre les morts, et ceux qui sont rendus participants de la résurrection et de la vie, qui est le Christ, ne sont pas retenus dans le péché, mais la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts les a ressuscités de la puissance du péché et de la mort. Ainsi ressuscités, ils deviennent membres de l'Église, qui est pure et sans tache, séparée des pécheurs et du péché par l'opération puissante de la croix, qui est la puissance de Dieu, par laquelle nous sommes transportés de la mort à la vie, du péché à la justice, du fait d'être membre de la prostituée et de son Église à celui d'être membre du Christ et de son Église, et telle est l'Église que nous reconnaissons et dont nous rendons témoignage. Or, concernant votre Église, je n'ai pas peu de choses contre elle, mais même beaucoup, dans lesquelles vous devez être repris et vous amender, ou plutôt être changé, avant que vous puissiez à bon droit être appelé et tenu pour l'Église du Christ, ou quelque partie d'Aïssel. Écoutez donc un moment et prêtez attention, vous prêtres et presbytres d'Écosse, qui depuis longtemps parlez de réformer, d'amender, de purger et de nettoyer votre Église, et je vous déclarerai la voie que vous devez prendre pour accomplir ce que vous prétendez tant vouloir et que vous ne pouvez pas encore accomplir, ni en vérité ne pourrez jamais, jusqu'à ce que soit ôté ce qui a empêché et empêche une réformation droite et entière. Or, la première chose dans votre Église qui se présente à mon intelligence pour être reprise, c'est son fondement sur lequel elle est bâtie, qui n'est pas le même que celui sur lequel l'Église du Christ était et est bâtie, comme il apparaîtra ainsi. Le fondement de votre Église est ce qui se tient dans la partie charnelle de l'homme, à savoir des formes et des noms des choses dont les saints ont écrit, sans la puissance, chose accessible par la sagesse charnelle de ce monde, par laquelle Dieu n'est pas connu, ni le corps qui est l'Église discerné, mais celui qui répète les paroles qui l'ont dit, bien qu'il soit hors de leur vie, est néanmoins tenu pour membre apte de votre Église, et c'est de tels membres, et sur un tel fondement que votre Église est bâtie, les paroles des saints en étant la pierre. Mais Christ a dit qu'il bâtirait son Église sur ce dont la connaissance ne vient pas de la chair et du sang, mais par révélation de Dieu son Père qui est aux cieux, comme vous pouvez le lire en Matthieu 16, 17-18. Et c'est ce rocher qui est maintenant rendu manifeste par révélation, par l'Esprit, chose que vous n'y existez en ces jours. Et ainsi vous n'êtes pas bâti sur ce qui vient à être connu de cette manière, mais sur ce dont la connaissance vient par la chair et le sang. Et vous qui avez posé pour votre Église un autre fondement que celui qui est par révélation, votre fondement doit être rasé, et votre Église doit tomber, dont les piliers sont déjà ébranlés et seront bientôt ôtés. Venez donc tous au vrai fondement, qui était et est le fondement de la véritable Église, à savoir le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est la lumière du monde et éclaire tout homme venant au monde de la vraie lumière, et que cela soit le commencement et le fondement de votre édifice, et ce qui subsistera éternellement. Cela était avant que la transgression fût, et avant que le culte volontaire fût, contre cela, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. C'est la pierre angulaire que vous, bâtisseurs, avez rejetée et rejetée encore la lumière, et en la rejetant, vous bâtissez Babylone, pour ainsi dire, qui est maintenant en confusion, et vous êtes arrêtés et ne pouvez aller plus loin, car le peuple voit votre confusion dans bien des endroits de la nation, et commence à aimer et à embrasser ce que vous avez chassé de votre Église, lesquels ont la lumière pour fondement, qui répond au témoignage de Dieu en tout, et quiconque bâtisse en cela son édifice sera réduit à rien, et les bâtisseurs seront. La chose suivante, répréhensible dans votre Église écossaise, est ce qui la compose. En cela aussi, vous êtes contraire à la véritable Église, l'épouse du Christ, car votre Église est composée d'hommes et de femmes mauvaises et impies, dont les cœurs se complaisent dans des pratiques impies, comme jurer, mentir, duper, tromper, se moquer, railler, oui, frapper et battre l'innocent. Voilà de quoi votre Église est faite. Les membres en sont des pierres mortes, dont les cœurs sont endurcis, la bouche pleine de malédiction, la langue pleine de venin, et les mains pleines de violence. Tels sont les matériaux avec lesquels vous avez bâti. Mais le Seigneur Dieu de lumière et de puissance vous met à nu et vous rend manifeste, et par sa puissance il vous renverse, là où la honte couvrira votre Église, là où les moqueurs seront moqués au jour de leur calamité, et les frappeurs seront frappés d'une verge qui les brisera en pièces. L'épée du Tout-Puissant étirera et blessera dans leurs parties intérieures ceux qui ont blessé ses enfants dans leur corps extérieur et attristé son Saint-Esprit, et alors hurlements et lamentations viendront sur votre Église, mais il n'y aura personne pour prendre en pitié. Car le double salaire de vos actes envers les enfants de Dieu viendra bientôt sur vous, et telle est la parole du Seigneur pour vous. Mais si vous demandez « Comment prouve-t-on tout cela ?» que votre Église est composée et constituée de telles personnes. Je réponds, je le prouve ainsi, non seulement par l'ouïe, ni par ce que j'ai vu de vous dans la lumière éternelle du Fils de Dieu avant ma venue parmi vous, mais aussi en étant témoin oculaire de votre conduite envers moi, moi qui, par obéissance à Dieu et par amour pour vos âmes, n'ai fait que proclamer la crainte de Dieu parmi vous, dans l'une de vos maisons de messe ou sur l'un de vos marchés. Quelle offense cela a-t-il été tenu par vous, qui êtes de l'Église presbytérienne d'Écosse, certains criant « Donnez-lui des coups de pied, donnez-lui des coups de pied et jetez-le à terre. » Un langage et un traitement semblables, moi et beaucoup de mes frères et sœurs les avons trouvés parmi vous, comme en particulier la conduite du peuple d'Alkief le 13 jour du 9e mois 1659 peut en témoigner, ou si les soldats n'étaient pas apparus pour faire obstacle à vos desseins meurtriers contre moi, vos œuvres de malice seraient davantage manifestées, mais votre esprit est vu et reconnu comme étant de même nature que la prostituée écarlate, qui a soif du sang des saints et en est ivre. D'ailleurs, il ne faut pas de plus grande preuve de cette accusation contre votre Église que ce qui est sorti et sort encore de vos propres bouches, vous qui confessez chaque jour être ce genre de gens, et êtes ainsi jugés par vos propres paroles, comme l'ont toujours été tous ses serviteurs paresseux. Votre prêtre ne dit-il pas que vous vous égarez tous, chacun selon les convoitises de son propre cœur, et que vous avez abandonné Dieu, la source des eaux vives, et que vous vous êtes creusé des citernes qui ne peuvent retenir l'eau, et que vos cœurs se sont éloignés de Dieu, s'attachant à des vanités mensongères. Beaucoup d'autres choses semblables pourraient être citées de vos propres bouches, dont le souffle, comme un feu, vous dévorera. Or, si ce n'est pas ainsi, pourquoi le dites-vous, mentant contre vos propres âmes? Si c'est ainsi, comment votre Église peut-elle être l'Église de Dieu, pure et sans tache, sans souillure et sans ride, ni rien de semblable? Répondez pour vous-même, ou cessez de vous tromper vous-même, et les autres avec le nom d'Église de Dieu, car auprès de lui n'habite aucune iniquité. Or si la lumière était le fondement, alors nul ne serait tenu pour membre apte de votre Église, sinon ceux qui y marchent. Et ainsi votre communion se tiendrait dans la lumière, comme la communion de la véritable Église s'y tenait et s'y tient. Mais les malfaiteurs, tels que les moqueurs, les menteurs, les orgueilleux, les avares, les frappeurs, les violents méprisants, les railleurs et les persécuteurs, cela hisse la lumière, la nie et la rejette, et ainsi peuvent être maintenus dans votre communion d'Église, qui est dans le péché durant votre vie, et sort. Une autre chose répréhensible dans votre Église, ce sont ses officiers, eux qui sont en toute chose contraires aux qualités signifiées par les Écritures de vérité. Comme vous pourriez bien le voir, si le Dieu de ce monde, le prince des ténèbres, n'avait pas aveuglé vos yeux, quant à quelque disproportion entre eux et les officiers dont parlent les Écritures. Pour l'amour des simples, qui désirent être instruits, j'en donnerai des exemples, et premièrement au sujet de vos presbytres. Car le presbytérat dont parlent les Écritures, ceux qui imposèrent les mains à Timothée, 1 Tim 4, 14, était tel que la puissance de Dieu était avec eux, comme le manifeste le fait que Timothée reçut un don par l'imposition de leurs mains. Eux-mêmes avaient reçu le don de Dieu, et avaient aussi reçu la puissance de communiquer le même. Mais vous, hommes orgueilleux et hommes cupides, qui usurpez l'autorité, prétendez être appelés de ce nom, et niez que cette puissance existe avec vous ou avec quiconque, ou que quelqu'un puisse être appelé ou doté immédiatement pour le ministère. Vous êtes de ceux dont il est parlé en Titus 16, vous faites profession de connaître Dieu, mais par vos œuvres vous le niez, étant abominables et rebelles, et réprouvés pour toute bonne œuvre, car ces qualifications appartiennent à des hommes tels que vous vous déclarez être, lesquels je vais exposer, et que tout homme sobre juge ensuite si vous en êtes dépourvu, oui ou non. 1. Ils doivent être irréprochables, et pour savoir si vous l'êtes ou non, soyez vos propres juges, vous qui dites que nul ne peut vivre sans péché, et donc par conséquent non sans reproche, car tout péché est blâmable, ainsi sur ce point particulier, vous vous êtes exclus vous-même. Ensuite vigilant, mais sur quoi veillez-vous? À moins que ce ne soit sur l'occasion de promouvoir votre honneur corrompu, ou d'accroître et d'exiger votre gain impie. Ensuite d'une bonne conduite, c'est-à-dire ne pas injurier, ni maudire, ni exciter le peuple au tumulte et à lapider ceux qui ne sont pas de votre avis, cela, c'est une mauvaise conduite. Ensuite hospitalier, quant à cela, que les pauvres gens de vos paroisses, qui souffrent du froid et de la faim tandis que vous vivez dans l'abondance et l'oisiveté, témoignent contre vous, ensuite capables d'enseigner. En cela aussi, vous êtes bien en deçà, vous qui devez prendre une semaine pour étudier afin d'enseigner au peuple 2 ou 3 heures, et qui pourtant ne pouvait faire tenir ensemble votre matière étudiée et fabriquée, tandis qu'un principe est confirmé, il se peut que le même jour, ou peu après, vous le nierez de nouveau. Ensuite non adonné au vin, ni violent. Combien d'entre vous ont été coupables d'ivrognerie et de coups, et d'avoir fait frapper par d'autres, il serait trop long de l'énumérer ici, mais que celui qui désire en être informé et connaître leurs mœurs les observe sincèrement, et il en viendra à comprendre leur esprit. Et aussi, certaines de leurs œuvres de cette nature sont déjà imprimées et livrées à la vue du public. ensuite non avide d'un gain sordide. En ce point, jusqu'où votre avidité s'est-elle montrée au-delà de tous ceux qui vous ont précédé, que les souffrances de ceux qui, par conscience, ne pouvaient pas remplir vos bouches, témoignent contre vous. De plus, dit l'apôtre en Intime 3:7, il faut qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, mais combien en êtes-vous éloignés, vous qui ne pouvez conserver un bon nom même parmi ceux de votre propre Église, tant votre avidité et votre tromperie sont manifestes, nonobstant, votre tyrannie ferme beaucoup leurs bouches et aveugle leurs yeux, de sorte qu'ils ne voient pas encore tant de votre tromperie qu'ils en verront bientôt. Mais brièvement, la description des officiers de l'Église dans toutes les Écritures des apôtres est qu'ils soient irréprochables, ce que vous dites que nul ne peut être aujourd'hui, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et de foi, ce que vous dites qu'ils ne peuvent être, car le péché doit avoir sa place en eux, alors ils ne peuvent être remplis de l'autre, qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure, ce que vous dites qu'ils ne peuvent faire, car quelque péché doit demeurer et cela sous la conscience, qu'ils soient doux envers tous les hommes instruits. 2. Les doctrines de votre Église aussi sont répréhensibles et corrompues en beaucoup de choses, contraires aux Écritures. Premièrement, dans vos doctrines concernant Dieu, que vous dites devoir être connu et cru en distinguant trois personnes, et en cela vous enseignez contrairement aux Écritures de vérité, que vous dites être votre règle, et par lesquelles tous ces rêveurs et séducteurs sont jugés, ainsi que par l'Esprit qui les a produites, lequel ne parle nulle part de trois personnes, comme vous l'imaginez et l'enseignez mais déclare le seul Dieu sage, qui est un dans son être et sa substance indivisible infinie qui dispense toutes choses et à chaque sorte sa part. 3. Votre doctrine concernant la parole de Dieu est entièrement répréhensible, vous qui enseignez au peuple à croire que ce qui peut être acheté est vendu pour de l'argent, et dont la connaissance peut être acquise par l'instruction humaine, à savoir les Écritures, ou les écrits extérieurs des prophètes et des apôtres, est la parole de Dieu. Les Écritures, la Bible, dites-vous, sont la parole de Dieu, et ceux qui disent autrement doivent, selon vous, être maudits. Mais cela ne retombera-t-il pas sur vos propres têtes, vous qui prêchez contrairement aux Écritures, lesquelles disent que Christ est la parole de Dieu? Or s'il est la parole de Dieu, alors les Écritures ne le sont pas, à moins que les Écritures ne soient le Christ, ce que si vous pensez déclarer clairement votre pensée, et si vous connaissez un autre Christ que les Écritures, alors appelez-le la parole de Dieu, et appelez les Écritures une déclaration, selon qu'elles sont appelées par ceux qui les ont écrites, lesquels connaissaient la parole de Dieu elle-même. Ce dont vous êtes ignorant, vous avez, pour ainsi dire, changé la gloire de la parole de Dieu incorruptible et immortelle, qui demeure à jamais, en la ressemblance d'écrits, qui ont eu un commencement dans le temps et doivent finir. La fin, vous saurez que la parole de Dieu est ce qui sonde vos cœurs et juge vos pensées et desseins impies. Cela demeurera avec vous à la fin, car cela était au commencement, ce que les Écritures n'étaient pas. Et c'est par cela que les Écritures et toutes choses sont venues à l'existence. De sorte que si les Écritures doivent être appelées la parole de Dieu parce que la parole est venue aux saints et leur a dit de les écrire ou d'en faire des livres, alors l'arche de Noé ou le temple de Salomon ou les vêtements des prêtres, ou toute autre chose de nature. Et de plus, ce qui est la parole de Dieu est ce qui a été fait chair. Et si vous pouvez dire comment ou quand les Écritures ont été faites chair, alors déclarez-le, sinon qu'on appelle désormais parole de Dieu ce qui est devenu chair. Encore sans la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et si les Écritures sont cette parole, alors dites-nous comment vous savez qu'elles étaient avant la création, car ce qui fait doit exister avant les choses qui sont faites par elles. En outre, la parole de Dieu, dit l'apôtre, est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, séparant l'âme et l'esprit. Mais si cela est les Écritures, dites-nous alors quelle est la raison pour laquelle vos âmes ne sont pas, par elles, séparées de l'esprit d'iniquité et de tromperie qui règne sur elles, mais vous imaginez que seule la mort peut faire cette séparation ? Comme si la mort était plus puissante que la parole de Dieu, aux prêtres et peuples aveugles et ignorants. Jusqu'à quand vous attacherez-vous à des vanités mensongères, attendant la vie là où elle ne se trouve pas, et comme les pharisiens d'autrefois, pensant avoir la vie éternelle dans les Écritures, mais ne voulant pas venir à Christ dont la vie est votre lumière. Tournez vos pensées vers vos propres cœurs, et sentez si la parole de Dieu, qui est comme un marteau, ne frappe pas tel ou tel de vos péchés et corruptions. Puis attendez d'en sentir le tranchant pour vous couper et vous séparer de vos péchés, afin que vous rendiez témoignage de la parole dans votre chair, et non dans un livre pour détruire les œuvres du diable, afin que vous connaissiez la parole dans le cœur qui vit et demeure à jamais, lorsque ce qui est détruit par elle, ce qui ne peut demeurer à jamais, à savoir votre péché est ôté, lui qui juge. 4. Votre doctrine de la foi est répréhensible, et en elle, vous êtes trouvés contraires aux vrais ministres du Christ, car vous prêchez que la foi ne peut être sans péché, et vous dites que c'est hérésie et erreur que quiconque dise qu'elle le peut. Or ceci, je le dis, si vous connaissiez la vraie foi, qui sauve, vous verriez qu'elle est en toute chose contraire au péché, et vous sauriez que, loin qu'il soit impossible de les séparer, il serait impossible de les unir. Car la foi, disent les Écritures, est le don de Dieu, et le don de Dieu est parfait, et Dieu et son don n'ont aucune communion avec le péché, mais donnent aux vrais croyants la victoire sur lui. Mais quant à votre foi, dont vous dites qu'elle ne peut être sans péché, elle en est corrompue, et n'est pas cette foi précieuse et semblable que les saints ont obtenue, par laquelle ils ont pratiqué la justice et ont été agréés du Seigneur, sans laquelle il vous est impossible de lui plaire, quand bien même vous accompliriez jamais tant d'œuvres, car cette foi mêlée de péché qui est la foi de l'Église d'Écosse n'est pas celle par laquelle le juste vit, mais parmi vous qui professez cette foi, le juste est mis à mort dans vos cas particuliers par le péché dans le. Si vous êtes bien en deçà de l'espérance des saints, qui les conduisait à se purifier comme Dieu est pur, et votre foi, votre espérance et votre assurance, ainsi mêlées de péché et d'injustice, sont exclues de conduire l'un quelconque d'entre vous à l'héritage de la promesse, qui est la vie éternelle, car c'est une foi fin ou fabriquée, qui endurcit le cœur, vous maintient dans la transgression, et engendre en vous une audace confiante dans vos sombres imaginations qui bientôt vous fera défaut, et vous serez dépouillés de votre foi et de votre être. C'est pourquoi tous ceux qui désirent venir à la vraie foi, qui donne la victoire sur le monde, et ce qui est dans le monde, doivent d'abord venir à ce en quoi la vraie foi est placée, à savoir la lumière dont Christ Jésus a éclairé tout homme venant dans le monde, afin que tous par lui puissent croire. Christ lui-même a dit qu'il devait croire en la lumière, et c'est elle qui, en secret, manifeste et reprend les œuvres des ténèbres, fait hors de la foi et déplaisante à Dieu. Quiconque croit en cette lumière doit croire contre le péché et sa puissance, et ainsi, demeurant ferme dans la foi, attentif à ce en quoi ils ont cru, alors la puissance de cette foi vient à se faire sentir dans la créature. Comme ils ont cru contre le péché, ainsi ils en viennent à recevoir la puissance contre le péché. Car selon leur foi, ainsi cela leur arrive, et selon votre foi, vous qui croyez que vous ne pouvez jamais être rendus libres de vos péchés, ainsi aussi cela vous arrivera. Tant que vous demeurez dans cette croyance, vous demeurez serviteurs du péché, et ainsi éloignés de la justice. 5. Concernant l'élection, et en cela vous vous êtes lourdement écartés de la vérité, et par la vérité devez vous être repris et jugés, vous qui enseignez dans votre Église que Dieu a regardé vers lui un certain nombre de personnes, sans qu'aucune cause ni qualité en elles ait été vue ou considérée, et que celles-là il les a élues au salut, par un décret immuable, afin qu'elles soient sauvées de la colère de Dieu, et que tout le reste est sous un décret irrévocable de damnation, car lorsqu'aucune voie de salut n'est laissée, ni aucun moyen efficace trou. De lui cette doctrine a jailli, lui qui règne dans le royaume des ténèbres et désire que nul ne vienne à la connaissance de la vérité ni ne soit sauvé. Et ainsi vous a-t-il mis à prêcher extérieurement cette doctrine à des gens ignorants, qui l'ont généralement cru tandis que cependant il suggère secrètement à certains d'entre eux qu'ils sont élus, et qu'ainsi, quel que soit le péché dans lequel ils vivent, il ne peut ruiner leur élection puisque celle-ci est sans condition ni qualification, et que les œuvres de l'homme ne peuvent altérer ni changer. Beaucoup de raisonnements semblables à ceux-ci sont appris du trompeur au-dedans et des trompeurs au-dehors. Le trompeur persuade aussi d'autres qu'ils ne sont pas élus, mais qu'ils sont du plus grand nombre pour lequel, disent les prêtres, il n'y a ni salut ni rédemption, et ainsi ils peuvent suivre leur voie et passer leur temps dans les plaisirs, car ils sont destinés à aller en enfer à la fin, et toute leur piété et sobriété, leur rigueur et leur abstinence des plaisirs, et tout ce qu'ils peuvent faire, ne peut changer le dessein de Dieu concernant leur damnation. Ainsi par ses moyens et instruments, et d'autres semblables, le diable soutient son royaume et vous empêche de prêcher celui-là ou de croire en celui-là qui est le chemin vers le Père, Christ Jésus, la lumière du monde, qui éclaire tout homme de la vraie lumière, par laquelle il peut voir ce qui a été accompli dans les ténèbres, qui est l'état de réprobation et en être conduit hors selon les paroles de Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui croit en moi ne demeurera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière. » Il n'a pas dit « Si les élus croient en moi, mais celui qui, terme général pour tout homme venant dans le monde et éclairé par cette vraie lumière, et c'est là l'amour de Dieu envers les filles et filles des hommes, lui qui ne veut pas la mort de ceux qui meurent, moque ceux qui meurent sont réprouvés, mais Dieu ne le veut pas, il veut plutôt qu'ils se détournent et qu'ils vivent. Mais vous qui prêchez cette doctrine, vous voudriez vivre sans vous détourner, mais l'épée du Seigneur est tirée contre votre vie et la retranchera, car elle ne subsiste que par l'imagination d'un tel décret, par lequel des pécheurs pourraient être sauvés dans leurs péchés. Et alors vous saurez que la voie du salut vous était ouverte en ce que la lumière a brillé dans vos cœurs, mais vous rejetant cette voie et cherchant à établir une voie à vous, ainsi vous êtes devenus exclus et fermés hors du royaume après en avoir longtemps parlé. C'est pourquoi vous tous, peuple d'Écosse, et quiconque recevra ceci, de quelque peuple ou pays que vous soyez, considérez dans la crainte de Dieu si vous êtes éclairés d'une lumière qui manifeste vos mauvaises actions, vos paroles et vos desseins dans le secret de vos cœurs, oui ou non. Si vous trouvez une telle chose, alors soyez attentifs avec diligence à son action en vous, car en elle se trouvent les réprimandes de l'instruction, dont les Écritures disent qu'elles sont le chemin de la vie, et le chemin de la vie n'est qu'un, et l'ayant trouvé chacun dans vos cas particuliers, alors ne suivez plus n'écoutez les trompeurs, qui depuis longtemps vous ont dupé, vous détournant de la lumière, du chemin, de la vérité et de la vie des hommes, et vous maintenant ainsi dans la mort et les ténèbres, où le salut ne se trouve pas. Ceux-ci vous ont dit qu'ils vous avaient prêché l'Évangile pour le salut de vos âmes, et pourtant ils vous disent aussi que, autant d'entre vous qui seront jamais sauvés, ils étaient sauvés avant votre naissance. À quoi donc sert toute leur prédication, s'ils ne peuvent convertir un réprouvé, et qu'une personne élue ne peut pécher jusqu'à la condamnation, où donc est l'utilité de leur ministère, pour lequel ils reçoivent tant de milliers de marks et des centaines de livres par an? S'ils répondent en disant que c'est le moyen de rassembler ceux qui sont élus, Je réponds, Dieu n'en perdra aucun faute de moyens, et c'est pourquoi il a accordé les moyens gratuitement, sans argent ni prix, à tous les fils des hommes, lui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, moyen et voie de salut, pour tous ceux qui croient en lui. Il est la grâce par laquelle les saints ont été et sont sauvés, qui apparaît à tous les hommes et rapproche le salut de tous, sans exception de personne, et qui les enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement et justement dans le temps présent. Mais si vous continuez encore d'être instruits par ce qui change la grâce de Dieu en débauche et méprise ce qui brille dans le cœur pour conduire hors du péché qu'elle manifeste, alors vous périrez dans votre opposition, et au jour de votre calamité et de votre misère, vous. Alors, dire que Dieu est en partie à blâmer et l'homme en partie à blâmer pour les hommes allant en enfer, ne tiendra pas, comme l'a affirmé l'un des principaux prêtres de votre église écossaise, Henry Forsyth, prêtre de Lingiche. Mais sa folie et celle de bien d'autres guides aveugles sont maintenant rendues manifestes par la lumière, contre laquelle ils se sont levés, mais ils n'iront pas beaucoup plus loin, car leurs turpitudes sont découvertes à leur honte. Bien d'autres doctrines de votre Église sont répréhensibles et sujettes à condamnation par la lumière, laquelle lumière, lorsque le lecteur diligent en viendra à y être attentif dans son action et son jaillissement, il verra et pourra mesurer et éprouver vos doctrines, et sera capable de comprendre votre tromperie dans beaucoup de vos autres doctrines, sur lesquelles je ne suis pas libre d'insister maintenant. Comme au sujet de la sanctification, dans laquelle vous permettez qu'une partie non sanctifiée demeure, et ainsi vous n'amenez jamais les gens à connaître ni à espérer une purification complète, dont les saints ont rendu témoignage, si ce n'est après la mort, quand un tel ouvrage ne peut être accompli. De même, votre doctrine de la justification dans le péché sera vue, et la justice de Dieu sera justifiée contre vos mensonges et votre tromperie, et aussi l'adoption, la résurrection, la glorification, et tout ce qui est prêché parmi vous, sera vu dans la lumière par ceux qui l'aiment, à laquelle je les recommande, eux en qui est la sincérité de cœur. Et je poursuivrai un peu plus loin concernant vos ordonnances.
Jean 1.
Et premièrement, concernant cette tradition pourrie que vous appelez une ordonnance ou baptême, à savoir de jeter quelques gouttes d'eau sur le visage d'un enfant d'environ 8 jours, vous appelez cela une ordonnance, mais n'avez jamais encore pu en trouver l'institution par Christ ni par ses disciples, pour quelque signe ou signification que ce soit, à plus forte raison ne pouvez-vous prouver que ce soit l'unique baptême, ni prouver qu'une telle chose ait jamais été faite par aucun d'eux. Ainsi, vous n'avez ni précédent ni précepte des saints hommes de Dieu, et c'est pourquoi je puis bien l'appeler une tradition pourrie, qui n'a même pas un précédent pour la soutenir, sauf si c'est une invention papiste, d'où elle a été tirée, de l'Église prostituée de Rome, votre mère, contre laquelle vous vociférez en parole et à laquelle vous obéissez dans ses pratiques sans mandat, et avec laquelle vous aurez votre part. Maintenant, ce charme ou tour de passe-passe présomptueux consistant à jeter quelques gouttes d'eau sur le visage des enfants, vous l'appelez baptême. Ce faisant, vous avez proclamé à tous les gens de bon sens que du plus grand au plus petit, vous êtes tous ignorants du baptême dont parlent les Écritures, qui avaient un temps et un service, et s'achevaient en ce qui demeure à jamais. Et ainsi, étant ignorants de celui-ci, vous avez à sa place établi une fantaisie et une tradition qui n'a pas même la moindre base dans les Écritures de vérité, et n'y est pas moins. En ce qu'ils vivent, pour Dieu et non pour eux-mêmes, ayant crucifié le vieil homme avec ses œuvres, et ayant le corps du péché détruit. Et dès lors, étant morts au péché, ils ne le servent pas, mais rendent témoignage au baptême qui sauve maintenant, purifiant la conscience devant Dieu par le lavage de la régénération. Maintenant, tous ceux qui désirent en savoir davantage sur cet unique baptême, qui est une mort au péché, et une purification ou un lavage de l'impureté tant de la chair que de l'esprit, vous devez tourner vos pensées vers la manifestation de l'Esprit de Dieu au-dedans, qui est donnée gratuitement par Dieu pour le bénéfice de tous, et par elle vous verrez les tâches qui demeurent sur vous, malgré votre baptême extérieur traditionnel, quel qu'en soit le type ou la manière. Elle vous donnera aussi de comprendre que le baptême qui est la réponse d'une bonne conscience, et qui est la ressemblance de la mort de Christ, qui est au péché, vous manque encore, et ainsi en attendant dans ce qui manifeste ces choses auxquelles vous devez mourir, alors vous sentirez le nom de Dieu révélé en vous, qui est la force et la puissance seule capable de tuer le péché. Et en vous y confiant et en y croyant, la vraie foi vient d'abord à être attestée, puis l'unique baptême qui nettoie et purifie sera attesté, lequel introduit dans l'alliance.
2.
La chose suivante est votre coutume imitative de manger et boire du pain et du vin, que vous appelez un sacrement de la scène du Seigneur, et dans cette imitation consiste une grande part de votre sombre fraternité et communion. Mais vous n'avez aucun mandat des Écritures pour une telle pratique, car Christ et ses apôtres n'ont jamais commandé à des blasphémateurs, des menteurs, des cupides, des bagarreurs et des persécuteurs que vous êtes d'observer une telle chose à quelque moment que ce soit, car chaque fois que vous mangez ou buvez, c'est indignement. Cependant, Christ, la même nuit où il fut livré, donna à ses disciples sa chair à manger et son sang à boire figurativement, eux qui ensuite devaient participer à lui et le posséder en ce qui était signifié par le pain et la coupe. Lorsqu'il prit du pain, le bénit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps », ce qu'ils prirent et mangèrent, et ils discernèrent son corps dont ils étaient membres, et toutes les fois qu'ils faisaient cela, ils se souvenaient de lui, qui avait dit « Je m'en vais, mais je reviens ». De même aussi la coupe, il dit que c'était le nouveau testament en son sang, en y participant alors et en gardant en mémoire celui qui mourut, et qui devait être relevé d'entre les morts par la foi et la patience, ils viennent à avoir la nouvelle alliance dans leur cœur, qui était la substance de la figure dans le sang, eux ayant d'abord été aspergés par lui d'une mauvaise conscience et lavés dans leur corps avec de l'eau pure, qui est une avec le sang. Mais combien vous êtes éloignés de cet état, que Dieu en rende témoignage dans vos consciences et que vos propres bouches en témoignent. Or, bien que Christ ait institué une telle chose parmi ses disciples, qu'il avait suivi dans la régénération et avait persévéré avec lui dans ses tentations, cela n'était rien pour ceux qui ne croyaient pas en lui, et ce n'est rien pour vous qui maudissez ceux qui rendent témoignage de lui, qu'il est venu comme une lumière dans le monde et qu'il a éclairé tout homme venant dans le monde, et que, selon sa promesse, il témoigne qu'il est revenu une seconde fois sans péché pour le salut, ceux-là, vous les maudissez et les persécutez. Ainsi, votre coupe n'est pas la coupe de bénédiction dont parle l'apôtre, 1 Cor 10:16, qui est la communion du sang de Christ, qui purifie de tout péché, et ce pain qu'ils rompent n'est pas la communion du corps de Christ, car Paul dit qu'eux-mêmes étaient le pain et le corps qui n'est qu'un. Il disait cela à des hommes sages, et si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, mais quant à vous, vous êtes si insensé et imprudent, que le pain que vous rompez est du pain matériel, qui ne nourrit que le corps charnel, lequel n'est aucune part du corps de Christ, caché à vos yeux charnels et scellé à vos imaginations charnelles. Et si vous ne pouvez croire véritablement à sa seconde venue, qui est sans péché, sa première venue seule ne vous sauvera pas, et votre pain et votre vin ne conduiront jamais aucun de vous à connaître véritablement, Nias. Et sa venue ne sera pas pour le salut lorsqu'il vous apparaîtra de nouveau, mais pour la damnation, vous qui ne discernez pas son corps, mais qui maudissez et persécutez ses membres. Mais tous ceux qui désirent connaître la scène du Seigneur avec sincérité doivent venir à la lumière dans le cœur, qui vient de Christ. Et elle leur montrera ce qui a crucifié Christ, ce qui a immolé l'agneau, et ce qui a opprimé le juste dans leur cas particulier. Puis la crainte de Dieu étant établie dans le cœur et le manque de Christ étant senti, lui qui par le péché et la transgression est crucifié de nouveau, alors vous viendrez secrètement à sentir une espérance de sa résurrection, et ainsi chaque fois que vous mangerez et boirez. Ces deux choses, vous les appelez sacrements, terme pour lequel vous avez aussi peu de fondement dans les Écritures que vous en avez pour les pratiquer, mais vous vous complaisez dans les œuvres de vos propres mains, et vous donnez des noms à ceux que vous idolâtrez, comme les païens et idolâtres avant vous. Mais si vous dites qu'ils sont des mystères obligatoires, je réponds, comment se fait-il que vous, qui vous y exercez depuis si longtemps, ne soyez pas davantage attachés à Dieu, mais demeuriez dans l'aliénation de vos pensées, si étrangers à lui, que l'un de vos propres prêtres a dit à une compagnie d'entre vous, en ma présence, que le mugissement des bœufs et le bêlement des brebis rendraient un compte aussi bon de ce qu'était Dieu et Christ que vos réponses si l'on vous interrogeait. Mais vos idoles seront brisées, et vous aurez honte de leur nom, comme ils eurent honte des bosquets et des arbres verts sous lesquels ils avaient adoré leurs idoles, que Dieu confondit devant vous. Alors votre eau et votre vin, vos gâteaux et autres choses semblables que vous appelez sacrements, et vos maisons de messe que vous appelez églises, marquées de la croix du pape, comme vos prédécesseurs, toutes ces choses n'ajouteront qu'à votre honte et à votre douleur. C'est pourquoi, pendant que vous avez le temps, mettez de côté ces traditions charnelles et insensées, et venez à la lumière qui permette aux gens de voir au-dessus de tout cela, à l'unique baptême lui-même, et aux repas et à la table du Seigneur eux-mêmes, et à l'Église elle-même, qui est en Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous pouvez le lire, 1 Thessaloniciens 3. Enfin, la discipline de votre Église apparaît contraire à la discipline de la vraie Église. Et sur ce point vous avez déjà tant avancé en ces quelques années que, par là, vous vous êtes beaucoup manifesté, même à beaucoup qui ne vous voyaient pas auparavant, car beaucoup ont regardé cela comme une queue de scorpion, avec laquelle vous avez cherché à laisser jaillir ce dard et ce venin qui logeait dans vos cœurs contre la vraie Église, que vous ne pouviez faire jaillir ni par votre langue ni par vos mains, mais cela aussi le Seigneur le retranchera. Votre aiguillon commence à se flétrir, et votre force à vous manquer, et les gens commencent à marcher en sécurité dans le sentier de la paix et dans la voie de la justice, malgré votre queue ou votre langue, au grand chagrin de vos cœurs, remplis de malice contre les justes du pays. Mais le Seigneur est leur libérateur, et selon la malice de vos désirs contre les innocents, ainsi sera votre récompense. Or la vraie Église observait que si quelqu'un, appelé frère, était fornicateur, outrageant, ravisseur, cupide, idolâtre ou ivrogne, avec un tel on ne devait pas manger. Or si vous observiez cela dans votre fraternité, vous seriez vite dispersés les uns des autres, vos prêtres suspendus pour leur cupidité, leur ivrognerie et leurs injures, le peuple suspendu pour sa fornication, son idolâtrie, ses rapines, ses injures, ses rixes et bien d'autres méfaits, votre communion tomberait bientôt. Mais vous, qui êtes un corps ou une église ainsi nommée, composée de gens tels que ceux-là, vous prenez un autre chemin pour soutenir votre association. Car si quelqu'un qui avait été un avec vous dans ces choses mentionnées vient voir par la lumière dont Christ l'a éclairé que ces choses déplaisent à Dieu, et qu'ainsi il n'ose plus continuer avec vous, mais déclare contre votre idolâtrie, votre cupidité, vos injures, c'est avec un tel que vous ne voulez ni manger ni boire, ni acheter ni vendre. Ô abominable profondeur de Satan, voilà le moyen que vous avez trouvé pour empêcher les gens de croire en la vérité et de se détourner de vos pratiques corrompues et maudites. En bref, c'est comme firent vos pères, les Juifs, qui furent les crucificateurs du Seigneur de la vie. Si alors quelqu'un confessait qu'il était le Christ, celui qui disait « Je suis la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ils devaient être chassés de leur synagogue, moque des synagogues des incrédules et des crucificateurs. Tels que vous, qui ne pouvez et ne voulez avoir aucune communion avec ceux qui croient en la lumière afin d'être faits enfants de lumière, votre fin ne sera pas comme la leur, à moins que vous ne vous repentiez. De plus, l'apôtre exhorte les Corinthiens à livrer à Satan la personne incestueuse, pour la destruction de la chair, afin que son âme fût sauvée au jour du Seigneur. Mais ils n'entendaient pas la destruction de son corps, comme vous le faites méchamment, vous qui avez soif de sang, pour apaiser la flamme de votre envie. Le Seigneur éteindra cette flamme, et vous qui désirez du sang, vous aurez du sang à boire. L'apôtre ne combattait pas contre la chair et le sang, mais contre la méchanceté spirituelle, et contre l'inceste, la fornication et l'idolâtrie. Mais vous faites la guerre à la chair et au sang, et vous cherchez la destruction des corps extérieurs autant qu'il vous est possible. Mais ceux qui croient en la lumière et se confient dans le Seigneur, le Dieu de notre salut, la puissance qui sauve du péché et de l'injustice, il les délivrera de vos mains sanglantes, de vos dents cruelles, et de la portée et du venin de votre queue nuisible. Mais peut-être direz-vous, bien que nous n'ayons aucun fait criminel à imputer à ce que nous avons chassé de notre Église, dont vous parlez, pourtant ce sont des hérétiques, et c'était le conseil de Paul, celui qui est hérétique, après un premier et un second avertissement, rejette-le. Je réponds, si cela était observé parmi vous, on n'en trouverait aucun à rejeter, car tous se trouveraient être à rejeter, et c'est la raison pour laquelle quiconque vient à être membre de la vraie Église vous rejette, à cause de votre hérésie en doctrine et de votre corruption en conduite. Mais selon cette voie que vous appelez hérésie, nous adorons le Dieu de nos pères, qui a écrit les Saintes Écritures par l'inspiration du Saint-Esprit, et conformément à cela, nous croyons en la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Cette croyance, vous l'appelez hérésie, et nous croyons que cette lumière dont tout homme est éclairé est une lumière suffisante pour conduire à la vie éternelle tous ceux qui la suivent et lui obéissent, et cela vous l'appelez hérésie. Cette lumière est le don parfait et céleste de Dieu, et quiconque se livre à son obéissance sera ainsi transporté des ténèbres et de leurs œuvres, qui sont le péché, et amené à vivre justement et saintement dans cette vie, et cela aussi vous l'appelez hérésie. Bien d'autres choses encore, déclarées dans les Écritures et par nous crues et attestées, vous les appelez hérésie, comme il apparaît dans un livre récemment publié par le presbytère d'Édimbourg, à leur honte, intitulé « A testimony against de petition for toleration », où votre esprit envieux et sanguinaire est suffisamment exposé à tout lecteur judicieux, contre l'avis des Écritures et contre quiconque est entré en elle, mais votre esprit de Caïn est vu, et votre fin est proche, et votre récompense sera selon vos œuvres. Maintenant, vous tous, peuple d'Écosse, en qui se trouve sincérité et simplicité à qui ceci parviendra, considérez dans la crainte du Seigneur où vous en êtes, avec qui vous êtes liés, et contre qui vous prenez parti tant que vous demeurez dans cette Église, et sondez vous-même les Écritures, et voyez si ces choses sont ainsi ou non, et sortez du milieu d'eux, et ne participez plus à leurs péchés de peur de participer aussi à leurs flets, qui sont proches de venir sur eux, et louez le Seigneur qui vous a épargné jusqu'ici, et a fait jaillir sa lumière. Et, dans la sincérité, comme vous éprouverez ces choses à la lumière, en elles vous verrez plus de lumière, et par elle une intelligence s'ouvrira en vous pour discerner leurs abominations et leurs tromperies au-delà de ce qui est ici déclaré. Mais si vous rejetez ceci au jour de votre visitation, alors vous serez enfermés dans les ténèbres, et votre ignorance augmentera, et vos cœurs seront endurcis, et vous serez rendus propres à l'indignation et à la colère de Dieu, qui se déverseront sur vous lorsque la mesure de vos iniquités sera comblée. Tant que vous avez du temps, estimez-le. Et tant que vous avez de la lumière, aimez-la et croyez en elle, afin que vous puissiez devenir enfant d'elle. Stephen Crisp, lettre suivante. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en profitant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.